Bien chers frères et sœurs en la foi, je vous salue dans le nom de Jésus et je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous quelques pensées concernant la parole de Dieu. J'aimerais, si vous avez votre Bible, partager avec vous une lecture dans le second livre des Chroniques, au chapitre 24. Nous lirons tout d'abord les versets 1 et 2. Second livre des Chroniques, chapitre 24, les deux premiers versets. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beer-Sheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Et nous reprenons la lecture au verset 15. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu, et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils Zacharie. Zacharie dit en mourant « Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. » Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant, l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui: Zabad, fils de Shiméath, femme ammonite, et Josabad, fis de Shimrit, femme moabite. Pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires sur le livre des rois. Vous remarquez que Joas arrive très jeune sur le trône du royaume de Juda. Il est seulement âgé de 7 ans. Et on comprend qu'à cet âge, il ait eu besoin de ce que j'appellerais un tuteur. Et il en eut un en la personne du sacrificateur Jéhojada. Et partant de là, j'aimerais pendant quelques instants souligner le besoin des jeunes âmes dans la foi. Parce que si l'on transpose les choses dans le cadre de la Nouvelle Alliance, sur le plan individuel, dans la vie spirituelle des croyants, et sur le plan collectif, dans la vie et le fonctionnement de l'Église, eh bien, on comprend aisément que les âmes encore fragiles, nouvellement nées à la foi, fraîchement converties, les âmes qui sont encore ignorantes des voies du Seigneur, aient besoin, elles aussi, d'un Jéhojada, c'est-à-dire d'un tuteur sur le plan spirituel. Quelqu'un qui va être là pour les encourager, pour les conseiller, pour les instruire. Le nom Jéhojada signifie « l'Éternel sait »,« l'Éternel connaît » ou encore « dont l'Éternel a soin ». Il est bon pour ceux et celles qui font leur premier pas dans le chemin du Seigneur de recevoir l'aide d'un frère ou d'une sœur mature et expérimentée. Il n'y a pas de honte à cela, bien au contraire, c'est tout à fait dans l'ordre des choses spirituelles. Permettez-moi de prendre quelques exemples de la vie concrète, pratique. Le bébé a besoin de soins constants. La jeune plante réclame un tuteur. L'élève a besoin d'un professeur. Eh bien, il en est de même dans la vie spirituelle. Le jeune croyant a besoin d'un Jéhojada. C'est-à-dire, il a besoin de quelqu'un qui porte en lui, et je reviens à la signification du nom Jéhojada, quelqu'un qui porte en lui une certaine connaissance de Dieu, de sa parole, de ses voies, de sa volonté, et qui pourra prendre soin des agneaux de la part du Seigneur. Je dis quelqu'un qui porte une certaine connaissance de Dieu, parce que qui peut dire qu'il connaît parfaitement le Seigneur. Considérez avec moi quelques exemples des Saintes Écritures. Dans ses toutes premières heures de vie chrétienne, Saul de Tarse a eu besoin de son Jéhojada en la personne du frère Ananias. Vous pourrez retrouver cela dans le chapitre 9 des Actes. Alors qu'il venait de rencontrer Jésus, on va dire de se convertir au Seigneur, seulement depuis quelques heures, le Seigneur lui a envoyé Ananias pour l'aider dans ses premiers pas. Et 3 jours après, Ananias rencontre Saul de Tarse, il va être l'instrument pour la guérison de ses yeux, il va le conduire dans la voie du baptême d'eau et de la plénitude du Saint-Esprit. Des années plus tard, devenu apôtre, Paul, lors d'une visite à Jérusalem, a exposé à ses collègues les plus considérés l'évangile qu'il prêchait parmi les païens afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et nous trouvons cela dans le chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Même à ce moment-là, Paul a senti le besoin d'être entouré de Jéhojada, d'hommes de Dieu, en Christ avant lui, et qui allait établir en quelque sorte une sécurité pour le message qu'il prêchait partout. Et je dis que de la part de Paul, c'est une grande humilité. Le jeune Timothée a lui aussi amplement bénéficié de l'aide dans les premiers pas de sa vie avec Dieu. Il a bénéficié de la foi de son aïeul Loïs et de sa mère Eunice. L'apôtre Paul en parle dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 1, verset 5. Et puis, l'éloquent Apollos, a reçu les lumières d'Achillas et de Priscille qui ont été des instruments entre les mains de Dieu pour qu'Apollos connaisse plus exactement la voix du Seigneur. C'est dans Actes au chapitre 18, les versets 24 à 28. Et l'église de Thessalonique, une église nouvellement fondée, a été choyée par la douceur et les tendres soins de l'apôtre Paul. Il en parle dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 7 et 8, et je vous les lis. « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Le mot « nourrice » employé par l'apôtre Paul sous-entend qu'il avait affaire à des chrétiens qui étaient encore des enfants dans la foi et qui avaient besoin de soins et d'aide fraternelle. Et puis les jeunes femmes, dans les assemblées de Crète, devaient recevoir les instructions de leurs aînés pour apprendre à gérer leur foyer. Et vous le lirez dans le second chapitre de l'épître à Tite. Monsieur Jean de La Fontaine a écrit dans l'une de ses fables « On a souvent besoin d'un plus petit que soi ». Eh bien, je dirais aussi aujourd'hui qu'on a souvent besoin d'un plus grand que soi. On a besoin, dans les premiers pas de la marche avec le Seigneur, d'un Jehojada spirituel. Alors, qui peut être un Jehojada? Qui peut être le Jehojada d'une jeune âme? Eh bien, ce peut être, par exemple, un membre de famille, fidèle au Seigneur, et qui, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 16, verset 7, une personne qui a été en Christ avant nous. Ce peut être un croyant affermi dans la foi avec lequel les jeunes âmes ont tissé des liens fraternels, un croyant affermi qui va donc les aider dans leur marche avec Dieu. Et puis, bien évidemment, le pasteur, votre pasteur, est entre les mains du Seigneur, votre Jehojada pour vous aider dans votre marche avec Dieu. Et je dis bienheureux les noms forts dont les faiblesses sont supportées et portées par les forts. Alors les forts travaillent à l'édification et à la solidité de leurs frères, et ceux qui sont encore faibles apprennent, ils se fortifient, ils croissent et ils se perfectionnent. Nous remarquons à la lecture de la parole de Dieu que tant que Joas a été sous la tutelle du sacrificateur Jehojada, il y a eu dans sa vie des résultats magnifiques. Joas avait un nom encourageant et prometteur. Son nom signifie « l'Éternel soutient, l'Éternel donne, l'Éternel a donné » ou encore « que l'Éternel a donné ». Nous le savons par la parole de Dieu, par notre expérience personnelle, nous recevons du Seigneur, mais pour donner aussi aux autres. En grandissant sous la tutelle de Jehojada, je le répète, Joas a fait des choses excellentes. Alors je ne vais pas prendre le temps ici de lire avec vous tout le début du chapitre 24 du second livre des Chroniques, mais j'en fais seulement un court résumé. Joas a eu la pensée de réparer la maison de l'Éternel, et cela nous l'avons au verset 4. Et c'est une pensée excellente de vouloir que les choses aillent de mieux en mieux dans la maison de Dieu, plutôt que de critiquer. C'est une chose excellente que de vouloir s'investir pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et soit belle. À partir de là, Joas va communiquer sa vision aux sacrificateurs et aux lévites pour qu'ils recueillent les fonds chaque année pour la réparation de la maison. Une vision spirituelle de l'œuvre du Seigneur doit être contagieuse. Ceux qui l'ont doivent contaminer les autres dans ce domaine-là. C'est une sainte et bénie contamination. Et comme les Lévites ont manqué de zèle, Joas est revenu à la charge pour donner une nouvelle impulsion à l'œuvre. Et à partir de là, tout un ensemble de bonne volonté, de gens qualifiés, se met en mouvement. Les sacrificateurs, les Lévites, les inspecteurs royaux, le secrétaire du roi, le commissaire du souverain sacrificateur, et ce n'est pas tout. Ceux qui exécutaient l'ouvrage, tailleurs de pierre, charpentiers, ouvriers travaillant le fer et les reins, ce n'est pas tout. Ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage. Et enfin, l'ensemble du peuple qui a donné l'argent, comme cela était réclamé par Moïse dans la parole de Dieu. Et il y a eu abondance de dons, au point que non seulement la maison de Dieu a été réparée, mais il y a eu du reste. Et avec le reste, on a fait des ustensiles pour la maison de Dieu, pour le service, pour les holocaustes, on a fait des coupes, on a fait d'autres ustensiles en or et en argent. Donc, le résumé de la vie de Joas dans toute cette période-là, c'est un temps de réforme, un temps de restauration, un temps de réparation, de relèvement, de consécration. La fin du verset 14 de notre chapitre est très significative, je vous le lis. « Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. » Ce qui signifie qu'il y a eu dans le cœur des uns et des autres un grand désir de la recherche de la faveur de Dieu et de la communion avec Dieu. Mais malheureusement, il y a eu un après Jéhojada. Nous l'avons lu et c'est bien triste. Joas va céder au désir apostat des chefs qui sont venus se prosterner devant lui. Et à partir de là, que lisons-nous ? L'abandon de la maison de Dieu que l'on a mis pourtant des années à réparer. L'abandon du Seigneur lui-même, parce que les choses se tiennent. Si on abandonne la maison de Dieu, on ne tardera pas à abandonner le Seigneur. L'idolâtrie. On s'est livré au culte d'Astarté et d'autres idoles parce que la nature a horreur du vide. Si on abandonne le Seigneur, le monde et les choses mauvaises vont remplir le cœur. Il y a eu le refus d'écouter le message des prophètes invitant le roi et le peuple à revenir vers Dieu. Et Zacharie, le fils du sacrificateur Jéhojada, a été rempli de l'Esprit de Dieu et il est venu adresser, certes un message sévère, mais en même temps un message de grâce, invitant le peuple à revenir vers Dieu. Eh bien, Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, a été lapidé, et il a été lapidé par ordre du roi. C'est-à-dire que Joas a oublié totalement toute la bienveillance que Jéhojada le sacrificateur avait eue à son égard. La suite, il y a eu une cuisante défaite devant les Syriens. Joas est laissé dans de grandes souffrances par les Syriens. Ses serviteurs vont conspirer contre lui et ils vont le tuer sur son lit de souffrance. Comment peut-on en arriver là? Comment peut-on tomber si bas? La parole de Dieu dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors nous lisons ceci dans la parole du Seigneur, dans le second livre des Chroniques, au chapitre 24, versets 15, versets 17 et 18, et je vous lis ces versets. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. Je vais me répéter, durant toute la vie de Jéhojada, Joas a marché droit. Mais les tuteurs ne sont pas immortels ni éternels. Jéhojada mourut, et à partir de là, Joas sombra dans l'apostasie. Et je voudrais dire ici quelque chose d'important. Le drame n'a pas été la disparition du tuteur, parce qu'il disparaîtrait un jour, bien évidemment. Donc le drame n'est pas la disparition du tuteur, mais le manque de maturité de la plante, le manque de maturité de Joas. Alors, je ne dis pas qu'il faille se passer des conseils, de l'expérience de nos aînés dans la foi, et encore moins qu'il faille se passer des ministères. Les ministères sont des dons de Christ à son Église, et tout croyant équilibré, saint dans la foi, sait qu'il a besoin du ministère de son pasteur et des ministères que Dieu a donné à son Église. Vouloir se passer des conseils, de l'expérience, des ministères, une telle attitude relèverait de l'orgueil. Je dis seulement que on ne peut pas être toute sa vie dépendant d'un tuteur spirituel pour tout et constamment, parce que cela, ce serait de la faiblesse et de l'infantilisme spirituel. Il faut grandir. À l'ombre d'un Jéhojada, il faut prendre des forces pour que le jour où le Jéhojada disparaît, on puisse s'assumer pleinement dans une vraie maturité spirituelle. Le contexte imposé par la pandémie de la COVID-19 a révélé au fil des mois la fragilité de certains membres de nos églises. Et je crois qu'au XXIe siècle, au sein de nos églises, nous pourrions réécrire pour certains l'histoire de Joas. Permettez-moi encore quelques images. Quand un enfant est en bas âge et que on veut lui apprendre à marcher, on le soutient sous les bras, on l'aide à faire ses premiers pas et on le maintiendra sous les bras aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'au moment où il va trouver son équilibre et marcher comme il convient. Quand un enfant est en bas âge, il ne sait pas manger tout seul. Alors, avec une petite cuillère, les parents ont quelques souvenirs de ça, on prend les aliments dans la petite cuillère, on l'approche de la bouche de l'enfant pour qu'il mange, et heureux les parents qui, à ce moment-là, ne voient pas leur enfant souffler dans la petite cuillère pour éclabousser tout le visage du papa ou de la maman. Ça aussi, on l'a connu à un moment donné ou à un autre. Mais, pour reprendre ces images, vous imaginez si l'enfant est devenu un jeune de 18 ans et qu'il faille encore le soutenir sous les bras parce qu'il ne sait pas marcher? Vous imaginez l'enfant de 18 ans à table avec vous, il faudrait prendre avec une cuillère les aliments pour les amener jusqu'à sa bouche. Cette pensée-là nous fait sourire, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de réaliser dans tout cela? C'est qu'à un moment donné de la croissance, la personne doit acquérir de l'autonomie et de l'équilibre. Je reviens au domaine spirituel. Qu'avons-nous constaté au fil des années dans nos églises? Par exemple, après le décès de son conjoint fidèle, un conjoint affermi dans les voies de Dieu, un mari ou une épouse demeuré seul devient infidèle au Seigneur. Des enfants semblaient attachés à Dieu tant qu'ils dépendaient de leurs parents chrétiens, mais devenus adultes, je parle au niveau de l'âge humain, devenus adultes, ils abandonnent la voie de Christ. Des chrétiens avaient tissé des liens d'amitié fraternelle avec tel foyer de croyants zélés. Ces croyants les stimulaient, les encourageaient sur le chemin de l'Évangile, et puis ceux-ci ont déménagé. Et alors, les chrétiens privés de leurs amis spirituels qui les aidaient, qui les entouraient, ces chrétiens-là ont subitement faibli dans la foi. Des frères et sœurs semblaient fidèles au Seigneur et venaient à peu près régulièrement en réunion, mais avec le nouveau contexte pandémique, ils décrochent, ils ne donnent plus signe de vie, ils ne répondent même pas au téléphone lorsque des amis chrétiens ou leur pasteur les appellent, et plusieurs collègues pasteurs me disaient récemment au téléphone qu'ils constatent tous que la Covid-19 a révélé effectivement la fragilité des églises et l'effondrement de la vie spirituelle de certains membres des assemblées. Alors il faut grandir. Je dis Jehojada un jour, oui, mais pas toujours. Alors il faudrait, bien évidemment, pour répondre à la question comment grandir, il faudrait tout un autre message sur cette pensée, mais j'aimerais survoler avec vous quelques remarques de l'Écriture. La parole de Dieu, en particulier le Nouveau Testament, parle souvent de la nécessité d'être affermi. L'apôtre Paul parle d'être fondé en Christ. Il sous-entend ici que notre vie spirituelle ressemble à un édifice qui mérite d'être établi solidement. L'apôtre Paul parle aussi de la nécessité d'être enraciné en Christ. Et là, il sous-entend que notre vie spirituelle est comparable à un arbre. D'ailleurs, le psaume 92 compare la vie des justes à un palmier. Et il est écrit « Les justes croissent comme le palmier ». Donc, il faut être fondé et enraciné en Christ. Il faut devenir mature, autonome, fort dans notre marche avec le Seigneur. Je vous laisse pour terminer 9 conseils à ce sujet. Premièrement, prenez des forces en lisant, en méditant, en étudiant la parole de Dieu. Un enfant grandit, se fortifie entre autres en mangeant normalement. Découvrez dans la parole de Dieu le conseil du Seigneur, sa volonté, ses directions, ses pensées, ses desseins. Le Saint-Esprit ne demande qu'à vous conduire dans toute la vérité. Il ne demande qu'à vous instruire, à vous enseigner, à prendre de ce qui est à Jésus et à vous le communiquer. Second conseil, apprenez à porter vos propres fardeaux. Vous trouvez cela dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 5. Troisième conseil, dans la prière, déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis. Premier Épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Quatrième conseil, trouvez tous vos délices dans la présence de Jésus. Ne soyez pas en sa présence simplement pour lui faire part de tous vos problèmes. Soyez en sa présence par amour pour lui, à cause des délices de sa personne. Rappelez-vous les paroles du psalmiste, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, il y a des délices éternelles à ta droite. » Combien de croyants ne se placent dans la présence de Jésus que pour partager avec lui leurs fardeaux, leurs problèmes, leurs détresses? Mais nous avons besoin d'apprendre à être dans la présence de Jésus pour lui-même, pour sa personne, parce que nous l'aimons. Cinquième conseil, réjouissez-vous dans l'action de grâce et dans la louange. Apprendre à découvrir la bonté, le secours, la bénédiction de Dieu dans les moindres détails de notre vie et apprendre à le remercier pour tout cela nous fortifie, croyez-moi, et nous fait grandir. Sixième conseil, entretenez la flamme de votre zèle sur l'autel du sacrifice de votre vie. Apprenez à vous consacrer au Seigneur. Rien n'est trop beau pour lui, rien ne coûte trop pour lui. Et si nous entretenons la flamme de notre zèle, si nous apprenons à nous consacrer au Seigneur, à chercher à faire sa volonté coûte que coûte, eh bien nous allons grandir. Septième conseil, devenez un athlète spirituel et courez avec endurance, sans avoir besoin d'être toujours tiré ou remorqué. Vous savez, l'apôtre Paul a écrit à Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Eh bien, il faut nous exercer à la piété comme l'athlète s'entraîne pour pouvoir gagner. On n'imagine pas un coureur de 100 mètres ou de 400 mètres ou de 5000 mètres qui, dès le départ, se ferait tirer par quelqu'un d'autre. Non, non, il s'est entraîné, il a fait des efforts pendant des mois, voire des années, il s'est musclé et au moment de courir, eh bien, il n'a besoin de personne, il court de toute sa force. Eh bien, il devrait en être ainsi de notre course chrétienne pour chacun de nous en particulier. Huitième conseil, forgez votre propre jugement par une réflexion sage, un examen équilibré et sain à la lumière des Saintes Écritures, pour ne pas que constamment, pour toute chose, vous ayez besoin de dire à tel frère ou telle sœur « Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu dis de tout ça ?» Je ne dis pas que à certains moments il ne faille pas le faire, bien évidemment, oui, mais dans bien des domaines, il faut que notre propre jugement soit exercé à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est meilleur par rapport à ce qui est bon. Et c'est dans le contact avec la parole de Dieu, là encore, que nous allons forger notre propre jugement pour ne pas dépendre constamment des autres. Et enfin, neuvième conseil, acquérez des convictions solides, des certitudes inébranlables. L'apôtre Paul dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Je pense que une des marques de la maturité spirituelle, c'est cette capacité d'avoir des convictions solides, des certitudes, sans avoir besoin constamment de prendre appui sur les convictions ou les certitudes des autres. le Seigneur va travailler à ce que nous grandissions dans les choses d'en haut, que nous prenions des forces, que nous devenions des hommes faits. L'apôtre Paul parle du dessein de Dieu à notre égard, c'est que nous ne restions pas des enfants, mais que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Donc encore une fois, un Géojada un jour, mais pas toujours. Et quand nous aurons grandi, et si nous avons grandi, alors nous pouvons être à notre tour un Géojada pour les âmes faibles. Et c'est ce qui a fait défaut à Joas, et c'est ce que nous devons fuir absolument. Vous savez, les enfants d'hier qui ont eu besoin d'aide de leurs parents sont des parents aujourd'hui qui apportent de l'aide à leurs propres enfants. Eh bien, dans la marche avec le Seigneur, dans la vie de l'Église, il doit en être ainsi. Les enfants spirituels d'aujourd'hui, on souhaite qu'ils soient devenus des adultes maintenant, capables à leur tour de prendre soin des âmes fraîches, nouvelles, des bébés en Christ, et le Seigneur est prêt à nous aider dans ce programme magnifique. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen.